meilleures des émissions, nos Reels et nos stories.
Facebook, X, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous.
Il est 23h, vous écoutez France Inter. Et l'on retrouve Luc Chemla pour le journal. Bonsoir Luc.
Bonsoir, bonsoir à tous. Première manche à rater pour le PSG en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Les coéquipiers de Kylian Mbappé viennent de s'incliner 1-0 en Allemagne contre le Borussia Dortmund. Résumé de la rencontre dès le début de ce journal. D'impressionnants épisodes de grêle ont eu lieu ce soir dans plusieurs départements de la moitié nord. C'est le cas dans Lyon. Vous entendrez le témoignage d'une habitante. Comme attendu, les manifestations du 1er mai ont rassemblé beaucoup moins de personnes dans les rues que l'an dernier. Une journée marquée par l'éviction du candidat aux européennes Raphaël Glucksmann à Saint-Étienne. Nous serons également en Turquie, où les manifestants étaient sortis en cette journée des travailleurs, mais la situation a été tendue à Istanbul. Et puis reportage à suivre à New York, dans le quartier du célèbre écrivain américain Paul Auster, décédé à 77 ans. L'émotion est très forte chez certains habitants.
France Inter.
L'ambiance était bouillante, la pression à son maximum car l'enjeu était colossal. Les footballeurs du PSG affrontaient ce soir l'enfer du Signal Iduna Park, l'antre du Borussia Dortmund pour ce match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Soirée très stressante pour les supporters mais surtout soirée décevante. Défaite 1-0 des coéquipiers de Kylian Mbappé. Bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Luc, bonsoir à tous.
Vous êtes en Allemagne et vous avez suivi ce match pour France Inter. On entend d'ailleurs l'ambiance.
Ouais,
le PSG
incroyable.
A poussé. Mais doit finalement s'incliner, Xavier.
Eh oui, c'est le Borussia Dortmund qui fait la fête là avec son Gelbewand, son mur jaune, 30 000 personnes presque, 25 000 on va dire, c'est difficile de les compter, hein. C'est un peu comme dans les manifs, et qui saluent leurs joueurs qui sont venus les féliciter parce que oui, Dortmund l'a emporté 1-0 grâce à Füllkrug, son attaquant international allemand à la 36e minute qui a fait la différence. Paris a manqué de trop de choses, de justesse technique déjà, et a manqué de tranchants. Pourtant, en deuxième période, les Parisiens étaient revenus avec de meilleures intentions. Ils ont touché les montants par deux fois dans la même action, en quelques secondes à peine, d'abord par Kylian Mbappé et ensuite par Achraf Hakimi, mais ça n'a pas voulu rentrer, et Paris va donc regagner la capitale avec ce déficit d'un but. Alors, un but avant le match retour, c'est rien. On a vu que Paris était en capacité de l'emporter, donc c'est pas forcément inquiétant, mais c'est quand même un but à remonter mardi au match retour, d'autant que Paris a perdu plus qu'un match, il a perdu Lucas Hernandez également sur blessure en début de rencontre, donc c'est une soirée compliquée pour le Paris Saint-Germain, mais qui ne perd pas espoir, comme on l'a vu avec le capitaine Marquinhos, qui est venu brandir son point, le point levé devant le parquage des supporters, des 4000 supporters parisiens. Rien n'est terminé.
Merci Xavier Monferrand, direct de Dortmund. Et donc match retour dans une semaine. Dans l'autre demi-finale hier, le Bayern Munich et le Real Madrid ont fait match nul de partout. Dans certains départements, des habitants ont sûrement eu l'impression ce soir que le ciel leur tombait sur la tête, notamment dans Lyon, où, comme cela a été craint, un épisode de grêle s'est abattu en début de soirée pendant une vingtaine de minutes. Un orage particulièrement impressionnant, à en croire ce témoignage de Fabienne Lanty, propriétaire d'une crêperie à Saint-Florentin.
Ça faisait beaucoup de bruit, beaucoup de grêlons qui frappaient dans les carreaux, mais un bruit vraiment intense, et alors des coulées d'eau qui portaient tous les grêlons.
Et les grêlons, ils faisaient quelle taille ?
1,5 cm. Hein, vous voyez, je sais pas si vous entendez le bruit des grêlons, on l'a enregistré. Voilà, avec des éclairs d'orage, c'était assez impressionnant. Ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de choses. On n'a pas de dégâts directs, nous, visiblement, en regardant sur la place. Mais par contre, dans le bas de Saint-Florentin, on a comme de la neige, quoi, des amas de glace. Ah bah oui, c'est étrange, oui.
Et au total, 19 départements dont Lyon sont placés actuellement en vigilance orange par Météo France pour soit orage, soit pluie, inondation. C'est une habitude, chaque année, la bataille des chiffres après les traditionnelles manifestations du 1er mai en cette journée des travailleurs. De Marseille à Lille, en passant par Strasbourg et Limoges ou encore Rennes, plus de 210 000 personnes étaient dans les rues aujourd'hui en France selon la CGT. Le ministère de l'Intérieur n'en a compté que 121 000 de son côté. Ce qui est sûr, c'est que la mobilisation a été bien moins importante que l'année dernière en pleine réforme des retraites. Souvenez-vous, les syndicats avaient revendiqué plus de 2 millions de participants. Si globalement la journée s'est bien passée, à noter tout de même quelques tensions à Paris et Nantes. Lui avait choisi de défiler à Saint-Étienne, mais rien ne s'est passé comme prévu pour Raphaël Glucksmann. La tête de liste PS Place Publique aux Européennes a été prise à partie par une cinquantaine de personnes, arrosé notamment de peinture. Il a été exfiltré et n'a même pas pu rejoindre le cortège. Actuellement en troisième position dans les sondages, l'eurodéputé estime que son éviction est clairement liée à sa dynamique.
On ne va pas être en train de dévier parce que des groupuscules violents sont ultra frustrés par la dynamique qu'on est en train de créer. Au contraire, finalement, leur marginalisation progressive, ça sera aussi un acquis de notre campagne. C'est mon passé, justement, qui fait de moi un démocrate de combat et qui fait que je ne baisserai jamais la tête. Ni face à l'extrême droite, ni face aux puissances d'argent, ni face à des groupuscules qui font de la violence politique le cœur de leur rapport au monde.
Raphaël Glucksmann qui a également déclaré avoir vu ce matin à Saint-Étienne des drapeaux de la France Insoumise, de quoi provoquer la colère de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise voit dans cette précision des accusations.
Je ne suis pas d'accord avec l'expulsion qui a été organisée par le groupe qui la revendique, la jeunesse communiste, de monsieur Glucksmann à Saint-Étienne. Mais je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler. Il n'est plus un rassemblement où nous soyons agressés. Manon Aubry, notre tête de liste, doit redoubler les précautions. Ça suffit de s'indigner à géométrie variable.
Manon Aubry a d'ailleurs apporté son soutien à Raphaël Glucksmann. En démocratie, tout le monde a le droit de manifester, écrit l'eurodéputé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, plusieurs candidats à ces européennes ont réagi pour condamner, notamment François-Xavier Bellamy pour les LR, ou encore Marie Toussaint. Le climat de violence qui se développe dans notre pays est insupportable, dénonce la tête de liste des Verts sur les réseaux sociaux. Les écologistes, qui ont d'ailleurs 9 élus sortants, qu'ils vont devoir défendre à ces européennes face à plusieurs listes avec différentes teintes de vert, car elles sont nombreuses à vouloir défendre leur propre vision de l'écologie politique. Antoine Geoffin.
Jean-Marc Governatori, tête de liste d'écologie au centre, était candidat à la primaire des écologistes, ex-EELV, en 2022. Et deux ans plus tard, il les attaque.
L'écologie au centre que je représente est dans le monde réel. EELV est manifestement dans le monde parallèle, puisque, par exemple, ils veulent recevoir tous les immigrés, ce qui est impossible. EELV est pour la voiture électrique, alors que c'est une offense à l'environnement. Vous savez qu'une voiture électrique, c'est une batterie électrique. Donc du manganèse, du cobalt, du nickel, on dépend de l'extérieur. Et en plus, ça pollue pour l'extraire.
Ce sera le premier scrutin pour écologie positive et territoire mené par Yann Verling, favorable à l'énergie nucléaire. Il revendique une écologie anti-nup.
Je ne veux pas d'une écologie qui s'enferme dans l'extrême gauche. Je veux qu'on soit en capacité de dialoguer avec toutes les forces politiques en dehors des extrêmes. Ni RN, ni LFI. La posture des Verts, elle ne permet pas ce dialogue, elle ne permet pas de construire ces compromis.
Equinox pousse aussi pour une écologie non dogmatique, avec du nucléaire et moins de normes, selon sa tête de liste Marine Chollet.
Aujourd'hui, lorsque vous voulez installer des panneaux solaires sur votre toiture, sur votre copropriété, vous avez un ensemble de documents et de normes qui s'accumulent, notamment en partie dû à des financements européens. Et donc du coup, nous, on appelle à simplifier ce mécanisme, à simplifier cette paperasse pour aller plus rapidement dans ces objectifs-là.
Il y a 53 listes se réclamaient de l'écologie et seul EELV avait réussi à avoir des élus.
Explication d'Antoine Geoffin pour France Inter. En ce 1er mai, il n'y avait pas qu'en France qu'on manifestait. Aujourd'hui, c'était le cas aussi en Turquie, particulièrement à Istanbul, où l'opposition et les syndicats ont tenté en vain de célébrer cette fête du travail sur la célèbre place Taksim, interdite depuis 2013. En vain, car la police n'a pas laissé faire et au total, 217 personnes ont été interpellées. Et galvanisées par leur victoire au municipal, les opposants au président Erdogan espéraient en faire une démonstration de force. Mais la ville a été placée sous très haute surveillance, Marie-Pierre Véro.
Le cœur d'Istanbul, vide et silencieux comme on ne l'a jamais connu. Plus de 40 000 policiers et forces anti-émeutes ont bouclé la place Taksim. Ils ont même fermé la mer, s'exclame le leader de l'opposition.
Deux heures et demie.
Ce retraité turc venu de France a marché 2h30 pour rejoindre l'un des points de rassemblement devant la métropole d'Istanbul.
Attention, la police, il y en a beaucoup. Hein.
L'ambiance est festive au début du rassemblement, slogans et danses. Puis le parti des travailleurs tente de forcer un barrage policier en vain. Gaz poivre, balles en caoutchouc, plus de 200 arrestations. Le parti d'opposition, le CHP, a lui préféré ranger ses drapeaux et se disperser.
C'est terminé.
Vous n'allez pas à taxi ?
Oui, parce que la police bloquée, entrée et sortir.
L'opposition n'a pas réussi son pari. L'un de ses représentants, Murat Sönmez, estime malgré tout que le gouvernement turc a dévoilé ses failles.
Le pouvoir a montré ses muscles, mais en fermant tous les accès, il montre aussi qu'il a peur de la démocratie. Il sait que s'il laisse un peu de liberté au peuple et de justice, cela se retournera contre lui.
Un homme qui a vécu les premiers mai des années 80 intervient. C'est un pouvoir religieux et fasciste, lance-t-il. Istanbul, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
La culture française perd un grand passeur. À l'image de ce message de la ministre de la Culture, Rachida Dati, les hommages se sont enchaînés tout au long de la journée après l'annonce de la mort de l'écrivain américain Paul Auster, célèbre notamment pour la trilogie new-yorkaise. Il avait 77 ans et souffrait d'un cancer du poumon. Une émotion particulièrement forte chez certains habitants de sa ville, New York, et particulièrement dans son quartier de Brooklyn. Loïc Loury a pu le constater.
Dans une interview, Paul Auster parlait de Park Slope comme l'un des endroits les plus démocratiques et tolérants sur Terre.
Oh, yeah, definitely.
Amy, une habitante du quartier, acquiesce, affectée par la mort de l'auteur.
I couldn't believe it. He was only
Je ne pouvais pas le croire, il n'avait que 77 ans. J'ai lu la plupart, si ce n'est tous ses romans, je les adore. Moi aussi, je suis de Brooklyn. Je vis dans ce quartier où il y a beaucoup d'écrivains. Paul Auster venait du même moule.
Un peu plus loin, dans cette librairie historique, les livres de Paul Auster sont en vitrine. Il restait un pilier de la communauté, dit Samuel, l'un des vendeurs.
Il était incontournable dans le quartier, incontournable dans cette boutique. Il était vraiment un soutien de cette librairie, parfois directement impliqué, et évidemment une présence à Park Slope.
Tout en reconnaissant qu'il ne restait surtout qu'une idée aujourd'hui du Brooklyn de Paul Auster.
Comme beaucoup de choses dans cette ville, ça existe toujours d'une façon ou d'une autre. Mais ça disparaît aussi de beaucoup de façons. Park Slope, en tant que quartier, a beaucoup changé ces 10 dernières années. Mais bon, je dirais qu'il reste quelque chose de Paul Auster.
La trace de l'écrivain avait commencé à s'effacer avant sa mort, même s'il reste le saint patron, dit le New York Times, de la littérature de Brooklyn. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et en 2018, Paul Auster avait été l'invité de Laura Adler dans L'Heure Bleue. Interview à retrouver sur le site internet de France Inter.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
La météo avec Elodie Calac.
Attention aux orages, vigilance orange jusqu'en milieu de nuit de la Bourgogne vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes. Les orages peuvent être violents avec pluie intense, grêle, forte rafale de vent. Des pluies balaient toujours le pays, particulièrement importantes du nord du centre-Val de Loire à la Normandie où une vigilance orange est en cours. Les cours d'eau sont sous surveillance. Demain, ce sera encore pluvieux sur les deux tiers du pays, surtout du massif central vers Rhône-Alpes et la Franche-Comté le matin, puis sur le flanc est. Il neigera sur le relief du sud. Le vent atteindra 70 km à l'heure en Méditerranée. De la Bretagne vers l'Aquitaine et le Roussillon, encore quelques averses, surtout sur le sud-ouest, mais ça s'éclaircira. La baisse des températures se poursuivra. Il fera souvent 12 à 17 degrés et jusqu'à 19 en Alsace et en Corse.
Merci Elodie Calac de Météo France.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge, le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Maintenant.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige un sixième de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
France Inter, il est 23h13, place à Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Giulio Andreotti, la boîte noire de l'Italie. La simple évocation de son nom convoque des pans entiers de l'histoire italienne de la deuxième moitié du XXe siècle. Car il se fond littéralement dans la geste politique de cette nation, parlementaire jusqu'au bout des ongles, laboratoire européen des combinaisons les plus brillantes comme des plus désespérantes mais toujours audacieuses. 32 fois ministre, 7 fois président du Conseil, élu sans interruption au Parlement depuis 1946 jusqu'au dernier jour de sa vie, en 2013, Giulio Andreotti fut quasiment un mythe. pour sa longévité, mais surtout pour les innombrables mystères qui entourent son exercice du pouvoir. Surnommé le Sphinx, Belzébuth, l'inoxydable, Renard, il Divo, le Pape Noir, Santo Giulio, pour sa très grande proximité avec le Vatican, il était aussi connu pour ses traits d'humour, son sens de la répartie et ses aphorismes passés à la postérité. Notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Briquet, directeur de recherche au CNRS et à l'Université Panthéon-Sorbonne, auteur du livre intitulé « Mafia, justice et politique en Italie, l'affaire Andreotti dans la crise de la République ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Héloïse Rambert, rédaction en chef, Franck Cognard, chargée de programme, Rebecca de Nantes, réalisation, Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Et maintenant, notre invité, un homme politique, un journaliste, un écrivain, le député Giulio Andreotti.
Ce soir de décembre 1985, Raffaella Carrà, chanteuse, danseuse, présentatrice à succès italienne, lance « Buonasera, Raffaella », traduisait « Bonsoir moi-même », son tout nouveau talk show télévisé. Pour inaugurer le confortable canapé dans lequel elle s'assoit avec ses invités, elle reçoit le ministre des Affaires étrangères d'alors, Giulio Andreotti. L'homme fait son entrée sous les applaudissements d'une rangée de soubrettes, en petite tenue à paillettes. Nous sommes sur la rail des années 80. La télévision italienne, assez m'as-tu vu, voire vulgaire. Ce qui ne gêne pas l'invité, ce soir-là. Avec son dos voûté, son pas mesuré et son air réservé, derrière ses lunettes aux grosses montures carrées, c'est peu de dire que son style tranche avec celui du plateau. Alors il prend place, les mains sur les genoux.
La première question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Vous avez récemment fêté vos 40 ans de vie politique et vous êtes peut-être même l'homme politique qui est resté le plus longtemps à la tête d'un gouvernement et pas seulement en Italie. Est-ce fatigant? C'est-à-dire, aimez-vous tellement cette vie politique que vous ne l'abandonnez jamais?
Si je n'aimais pas ça, je ne continuerais pas. Je dirais que, oui, bien sûr, il n'y a pas que des roses, il y a aussi pas mal d'épines. Mais on dit que c'est une maladie dont on ne peut pas guérir, et d'ailleurs, je ne fais rien pour guérir.
Si l'exercice du pouvoir est une maladie, le cas de Giulio Andreotti est à montrer à la science. En 1985, il a déjà été ministre presque sans discontinuer depuis les années 50 et président du Conseil déjà 5 fois. Il naît à Rome en 1919. Son père, instituteur, meurt alors qu'il n'a que 2 ans. Sa mère l'élève, lui, ses frères et ses sœurs, avec la modeste pension de guerre de son mari. C'est cette femme très pieuse qui lui transmet une inébranlable foi catholique. Devenu adolescent, Giulio veut faire médecine. Mais les finances familiales ne lui permettent pas de se lancer dans des études aussi longues, alors ce sera le droit. Sur les bancs de l'université, poussé par quelques amis, il rejoint la Fédération universitaire catholique italienne, la FUCI, une organisation qui formera de nombreux intellectuels italiens du XXe siècle et qui, à l'époque, et l'épicentre de l'antifascisme soutenu par l'Église. C'est une rencontre qui va tout changer, comme Andreotti l'évoque en 77 à la télévision italienne.
J'ai commencé à faire de la politique en dilettante, je n'y pensais pas du tout. En fait, je me moquais beaucoup de ceux qui faisaient vraiment de la politique. Mais ensuite, je me suis retrouvé président de l'Université des catholiques avec De Gasperi.
Un jour du printemps 1938, jeune étudiant, Giulio Andreotti se rend à la bibliothèque du Vatican. Il doit y effectuer des recherches sur la flotte papale. En entendant le sujet de recherche, le bibliothécaire, un homme d'une 60aine d'années au visage anguleux, ne mâche pas ses mots. Il n'avait rien de mieux à faire, lui lance-t-il. Andreotti est vexé, bien sûr. Le bibliothèque, bourru, s'appelle Alcide de Gasperi. Mais ça, il ne sait pas encore. Pourtant, Gasperi est déjà une personnalité politique à expérimenter. Emprisonné en 1928 pour ses convictions antifascistes, lui aussi fervent catholique, il a trouvé refuge au Vatican. En tout cas, une confiance et une admiration mutuelle s'installent entre les deux hommes. Ils ont pourtant des caractères très différents. Andreotti est aussi pragmatique que Gasperi est idéaliste. À propos de leur relation, Indro Montanelli, un célèbre journaliste italien, résume « Lorsqu'ils allaient à l'église ensemble, Gasperi parlait à Dieu et Andreotti au prêtre. » L'étudiant en droit entre dans le cercle intime d'Alcide de Gasperi et dans celui d'autres futurs dirigeants d'un nouveau parti politique de centre-droit, pour l'heure encore dans la clandestinité, la démocratie chrétienne. Gasperi propose à Andreotti d'écrire dans le journal Il Popolo, Le Peuple, un journal clandestin lui aussi amené à devenir l'organe officiel du parti. Ce qu'il accepte. Andreotti montre déjà un certain talent pour le grand écart. Car dans le même temps, il collabore au journal de propagande fasciste La Rivista del Lavoro, la revue du travail, dans lequel il prend des positions de complaisance qui lui vaudront plus tard des critiques. En 1942, il prend la direction de la Fédération universitaire catholique, succédant à un autre étudiant dont le nom restera pour toujours lié au sien, Aldo Moro. La guerre terminée, Andreotti devient responsable de la section jeunesse de la démocratie chrétienne, dont Gasperi a officiellement pris la tête. En 1946, par référendum, les Italiens disent basta à la monarchie et oui à la République.
10 juin. Giuseppe Pagano, primo presidente della Corte di Cassazione.
Giuseppe Pagano, premier président de la Cour de Cassation, donne officiellement lecture des résultats. 12.672.767 voix pour la République, 10.688.905 voix pour la Monarchie. La République l'emporte avec une marge d'environ 2 millions de voix. Le verdict n'est pas définitif. La Cour doit examiner les recours des monarchistes contre le décompte de la majorité. De Gasperi se rend au Quirinal pour annoncer officiellement la nouvelle au roi Umberto II. Il est accompagné de Giulio Andreotti, qui l'attend à l'extérieur.
Andreotti ne reste pas longtemps aux portes de la toute nouvelle République italienne. Durant ses années d'apprentissage, il s'est fait quelques amis utiles, notamment Giovanni Battista Montini, futur pape Paul VI, qui pousse Gasperi à le nommer en 1947 sous-secrétaire du gouvernement dont il a pris la tête. Toute sa vie, Andreotti sera le grand ami des papes et des sous-papes, cardinaux en pourpre et silhouettes cardinalistes qui font la pluie et le beau temps sur l'hygiène morale des Italiens. Et ça paye. En 1948, la démocratie chrétienne remporte une écrasante victoire sur la gauche, représentée majoritairement par le Parti communiste, au terme d'une campagne féroce, dans un pays fébrile sur lequel plane l'ombre de la guerre civile. Dans l'Europe plongée dans la guerre froide, l'Italie occupe en effet une place géographique et géopolitique à part. Avec le parti communiste le plus fort d'Europe occidentale et une frontière commune avec la Yougoslavie, le risque de voir la botte passer à l'Est est considéré par certains comme réel. La démocratie chrétienne, soutenue par la papauté et les États-Unis, se pose en rempart contre les rouges. Et c'est le début d'une hégémonie politique qui durera des décennies. Lentement mais sûrement, Andreotti commence son ascension au sein de la Baleine Blanche, surnom donné à la démocratie chrétienne, indéboulonnable parti plus ou moins au centre de l'échiquier politique, pilier de toutes les coalitions et bientôt traversé par divers courants, parfois incompatibles. Gasperi, lui, trouve en Andreotti, pas encore trentenaire, mais doté d'une capacité de travail hors du commun, un collaborateur idéal et infatigable. Ce garçon est tellement capable que je le crois capable de tout, aurait-il dit de lui. À la lumière de la suite du parcours de l'inoxydable, voilà une bien belle intuition. En 1954, Andreotti crée son propre courant au sein du parti, amené à devenir son aile la plus conservatrice et la plus cléricale, et accède à son premier poste de ministre. Premier d'une longue liste. Durant les années 50 et 60, il enchaîne en effet les portefeuilles, régaliens de surcroît, à l'intérieur, aux finances ou encore aux affaires étrangères. Ce sont des années où il tisse des liens transversaux, non seulement au Vatican, mais aussi à l'étranger. Et également en Sicile, grâce à un très proche collaborateur du nom de Salvo Lima, qui relaie efficacement le courant andréotien dans l'île et qui lui permet de devenir une vraie force politique nationale. En 1969, l'Italie bascule dans l'une de ses plus sombres périodes. Une bombe explose Piazza Fontana à Milan. C'est le début des années de plomb.
Vendredi 12 décembre 1969, une date que nous n'oublierons jamais. Horreur et indignation. Milan, la banque agricole. 10 kilos de TNT ont semé la mort et la destruction. 14 morts, 80 blessés. C'est un massacre. Celui qui a porté ce coup veut nous désorienter, nous précipiter dans l'obscurité.
En 1972, Giulio Andreotti devient pour la première fois président du Conseil, dans un pays en très mauvaise posture, entre stagnation économique, chômage, terrorisme de droite et de gauche. Politiquement, les années 70 sont marquées par une polarisation extrême de la vie politique et une montée irrépressible des communistes dans les urnes, des communistes, précisons-le, démarxisés et désoviétisés. Lors des élections de 1976, ce PC-là, qui n'a pas grand-chose à voir avec le PC français plus ou moins stalinien, lui, fait quasiment jeu égal avec la démocratie chrétienne. Et il se trouve qu'au sein de la formation centriste et chrétienne, il y a un homme qui veut faire bouger les lignes et saisir la main tendue par le PC et son leader Berlinguer depuis plusieurs années, c'est Aldo Moro, instigateur de ce qu'on appelle le compromis historique. L'idée est de permettre aux communistes d'entrer au gouvernement pour assurer la pérennité de la démocratie italienne, mise en danger par les attentats extrémistes qui ensanglantent le pays depuis 1969. Et ainsi, éviter l'émergence d'un régime totalitaire, comme au Chili, par exemple. Andreotti se montre d'abord franchement hostile à l'idée d'une cohabitation avec les communistes. Pourtant, c'est à lui qu'Aldo Moro demande en 1976 de diriger le premier gouvernement soutenu par la non-défiance du PCI, c'est-à-dire contre lequel les communistes s'engagent à ne pas voter de motion de censure. Étonnant à première vue de faire appel à Aldo Moro, mais logique en vérité, car il est l'homme de la situation, dans les petits papiers des États-Unis, de l'OTAN et du Saint-Siège. Assez rassurant pour faire avaler à tout ce petit monde un rapprochement avec les communistes. Génie de la tactique politicienne. Andreotti joue les équilibristes pendant un an et demi. En 1978, les communistes acceptent même de voter en faveur de son nouveau gouvernement. Mais quelques heures avant sa présentation au Parlement et la première véritable concrétisation du compromis historique, Aldo Moro est enlevé par les Brigades Rouges, la principale organisation armée d'extrême-gauche. Moins protégé qu'Andreotti, sans voiture blindée, Moro était la cible la plus facile.
Voilà la voiture avec les corps, des agents qui faisaient partie de l'escorte du député Aldo Moro. Recouvert d'une bâche, il y a deux hommes dans la Fiat 130. Un autre corps dans la voiture qui suivait. Et les carabiniers font leur constatation. Il y a quatre morts, me dit. Plus un blessé, me dit un collègue. Monsieur Moro a été enlevé.
Più un ferito, mi dice un collega. E l'onorevole Moro è stato rapito.
L'enlèvement d'Aldo Moro est peut-être la première grande tragédie qui affecte personnellement et politiquement Andreotti. Il le racontera lui-même. Il a pleuré très peu de fois dans sa vie. Mais en ce 16 mars 78, les larmes ont coulé. Certains racontent même que le président du Conseil d'ordinaire, si impassible, indéchiffrable, s'effondre littéralement. Aldo Moro, lui, est retenu dans ce que les brigadistes appellent dans leur jargon la prison du peuple. En fait, un appartement, quelque part à Rome ou en banlieue romaine. Ses ravisseurs proposent d'épargner sa vie en échange de la libération de plusieurs de leurs camarades emprisonnés. Au fond de sa geôle, Aldo Moro écrit des dizaines de lettres, au pape Paul VI notamment, et aux dirigeants de la démocratie chrétienne. Il les exhorte à le sauver et à satisfaire les revendications des terroristes. La plupart des dirigeants du parti de la démocratie chrétienne affirment que ces lettres ne reflètent pas les aspirations sincères de Moro et ils se refusent à toute négociation. Andreotti en tête, qui ne lâche pas ce qu'on a appelé la ligne de fermeté, comme il le justifie ici à la télé.
C'est absurde.
Imaginez ce que cela signifierait pour les carabiniers, les agents de la sécurité publique et les gardiens de prison, qui, ont pris de grands risques et sacrifices servent l'État. S'ils soupçonnaient que, dans leur dos et en violation de la loi, le gouvernement négocie avec ceux qui se sont vraiment moqués de la loi et continuent de le faire.
Et continuent à faire scempio.
Au terme de 55 jours de séquestration, Aldo Moro est exécuté par les Brigades Rouges. Son corps est retrouvé criblé de balles dans le coffre d'une Renault 4. Ironie cruelle des terroristes, la voiture est garée au cœur de Rome, à mi-distance entre le siège de la démocratie chrétienne et celui du Parti communiste. Mais même mort, Aldo Moro a encore des choses à dire. En octobre 78, soit 5 mois après son assassinat, Carlo Alberto Dalla Chiesa, un commandant des carabiniers à la tête d'une structure de lutte contre le terrorisme et qui sera tué par la mafia sicilienne 4 ans plus tard, fait perquisitionner la planque des Brigades Rouges à Milan. Et là, il retrouve une serviette en cuir marron, avec à l'intérieur une 50aine de pages de réponses d'Aldo Moro aux interrogatoires de ses ravisseurs. C'est ce que les Italiens appellent le mémoire Moro. Le député y donne des informations sur les plus sombres épisodes de l'histoire italienne récente. Des noms de personnes impliquées, et parmi elles, Giulio Andreotti, avec lequel Aldo Moro se montre particulièrement dur. Un chef d'orchestre avec beaucoup d'exécuteurs d'ordre, un froid calculateur assoiffé de pouvoir, à qui il attribue également des malversations financières et, encore plus grave, un rôle central dans la profonde division politique et idéologique de l'Italie. Ce n'est que le début des accusations plus ou moins directes contre Giulio Andreotti, des révélations sur ses mauvaises fréquentations et ses possibles manœuvres souterraines dans la Première République italienne.
Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. Scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane. Forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Giulio Andreotti, la boîte noire de l'Italie.
France Inter. Affaires Sensibles.
Dans les années 80, Giulio Andreotti retrouve son fauteuil de ministre des Affaires étrangères. Il y excelle. Et c'est peut-être le poste qui lui donne le plus de satisfaction, celui où il peut laisser libre cours à ses talents de diplomate. Sa feuille de route, soigner ses rapports privilégiés avec Washington, tout en brouillant sa ligne atlantiste en continuant à entretenir le dialogue avec l'URSS et les pays arabes. Au même moment, dans la botte, l'extrême gauche et l'extrême droite déposent les armes. Et c'est la fin des années de plomb. Mais les attentats politiques laissent place à une escalade de la violence de Cosa Nostra, la mafia sicilienne. À première vue, pas de rapport direct avec Andreotti. Et pourtant, on y reviendra. Toujours est-il que le clan des Corleone, dirigé par le sanguinaire Toto Riina, entre en guerre contre les parrains palermitains et l'État, et fait rayer la terreur dans la région de Palerme. Ces années sont aussi celles de la contre-attaque de la magistrature, menée par un jeune juge déterminé, Giovanni Falcone. Patiemment, dans le plus grand secret, le courageux magistrat dissèque les rouages de Cosa Nostra. Et s'il y parvient, c'est grâce à la collaboration cruciale d'un repenti de la pieuvre qui lui livre les clés de l'organisation jusque-là complètement opaque pour l'État. C'est le désormais célèbre Tommaso Buscetta, dont Andreotti plus tard va entendre parler à ses dépens. Ces révélations et le travail acharné de Falcone aboutissent en 1986 à la tenue d'un procès d'une ampleur inédite contre la mafia sicilienne, le Maxi Procès de Palerme, qui débouche sur des condamnations inimaginables jusque-là. Un total de 2665 années de prison est prononcé, sans compter les peines à perpétuité à l'encontre de 19 chefs mafieux. Andreotti, lui, prend la tête du Conseil des ministres pour la 7e et dernière fois en 1991. Il est nommé sénateur à vie et semble bien placé pour succéder à Francesco Cossiga à la présidence de la République l'année suivante. Mais ses plans sont contrecarrés. C'est précisément cette année 92 qui va tout changer pour l'inoxydable homme politique. Et pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le début de l'opération Manipulite, ou opération main propre. Énorme scandale politico-financier qui met au jour un vaste système de financement illégal des partis et qui frappe de plein fouet la démocratie chrétienne. Et puis en mars, Silvio Lima, son précieux collaborateur sicilien, est froidement assassiné à Palerme.
Une attaque dévastatrice, deux tueurs à gages, à moto, le visage masqué par un casque, ont agi avec une détermination féroce. La voiture, une Opel conduite par le professeur Alfredo Olivetti, professeur d'université, ami et collaborateur, venait de quitter la maison de Salvo Lima à Mondello en direction de Palerme. Les premiers coups de feu tirés avec un calibre 38, mais peut-être aussi avec une autre arme, ont touché le pare-brise de la voiture, qui a volé en éclats et ont transpercé une roue. Un moment de terreur dramatique. Salvo Lima a compris et tenté désespérément de prendre la fuite. Les tireurs l'ont rattrapé, il était peut-être déjà blessé. Une dernière balle dans la nuque l'a laissé sans vie sur l'asphalte.
Quelques mois après, le juge Giovanni Falcone et son collaborateur Paolo Borsellino sont tués eux aussi dans des attentats spectaculaires. Derrière tous ces morts, les Corleonais de Totorina, qui ne respectent plus aucun code et qui font tuer femmes et enfants lors de règlements de compte, poussent la violence de Cosa Nostra à un niveau jamais vu jusque-là. En 92, les sentences du maxi-procès de Palerme sont confirmées en appel. Fureur des dirigeants de la mafia sicilienne, qui lance une série d'assassinats et d'attentats vengeurs. Il frappe non seulement les magistrats qui ont rendu possible le maxi-procès, mais aussi les hommes politiques jugés peu fiables et qui n'ont pas réussi à faire annuler le verdict. Parmi eux, Salvo Lima, l'ami d'Andreotti. Et c'est encore de la Sicile que vient le coup suivant, de Tommaso Buscetta, qui a encore des choses à dire. Après la mort de Giuseppe Falcone, dont il a été proche, l'ancien mafieux décide de parler des liens entre Cosa Nostra et le monde politique, sujet sur lequel il a toujours gardé le silence. Lors d'un interrogatoire, il révèle que Salvo Lima, surnommé le proconsul Andreotti, jouait les courroies de transmission entre le pouvoir central, incarné donc par Andreotti, et la mafia. Et Buscetta ne s'arrête pas là. Il accuse l'ancien président du Conseil d'avoir commandité en 1979 le meurtre d'un journaliste, Mino Pecorelli. Un an à peine après l'exécution d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, à l'époque, ce nouveau drame se faufile au sommaire du journal de France 3.
À Padoue, le président de la faculté de lettres a été agressé et blessé par trois jeunes gens armés. Et hier soir, c'est le directeur d'un journal spécialisé dans les scandales politiques qui a été assassiné. On a tiré sur lui 5 balles de revolver alors qu'il prenait place au volant de sa voiture à la sortie de son bureau.
Le repenti explique que la mafia a exécuté Mino Pecorelli pour le compte d'Andreotti. Ce journaliste assassiné, extrêmement bien informé par les services secrets, habitué au scoop, s'apprêtait peut-être à publier des documents concernant deux affaires, le financement illicite du courant Andreotti au sein de la démocratie chrétienne et surtout l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro. le journaliste aurait eu en main la version intégrale, 420 pages en tout, du mémoire Moreau, potentiellement très compromettant pour plusieurs hommes politiques et notamment pour Andreotti. Toujours selon Bouchetta, si le général Dalla Chiesa a été assassiné, c'est parce qu'il a mis la main sur les premiers écrits d'Aldo Moro. Il avait été muté en Sicile pour lutter contre le crime organisé, peut-être pour faciliter son élimination. En tout cas, le parquet de Palerme juge les éléments assez graves pour adresser au Sénat italien une demande de l'immunité parlementaire de Giulio Andreotti, condition sine qua non pour poursuivre ses enquêtes sur ses liens présumés avec Cosa Nostra. Et il l'obtient. L'événement a un retentissement considérable dans l'opinion publique, parce qu'il marque une rupture. Pour la première fois, la question tant controversée des liens entre le pouvoir mafieux et le pouvoir politique accède à la scène judiciaire. Et pas par le biais d'un second couteau, non. Par une figure historique du parti qui gouverne l'Italie depuis presque 50 ans. Alors, les accusations de Bouchetta oblige les Italiens à une inquiétante révision d'un demi-siècle de leur histoire. En 1995, s'ouvrent deux procès en assises et en parallèle. L'un à Perugia, pour le meurtre de Pecorelli, l'autre à Palerme, pour les liens du sénateur à vie avec la mafia. Andreotti, 76 ans, ne se soustrait pas à ses obligations judiciaires. Il est au rang des accusés pour l'ouverture de ce procès historique.
Palerme, 26 septembre 1995, 10h30 ce matin, le tribunal entre en scène. L'accusé Giulio Andreotti, debout parmi les autres, prend place. Ce que l'on a peut-être défini avec insistance comme le procès du siècle commence. Nous n'en sommes qu'au début et les stratégies qui le régiront pendant les deux voire trois années de sa durée sont déjà en train de se dessiner.
Tout un symbole, les audiences ont lieu dans le bunker adjacent à la prison de Palerme, construit 9 ans auparavant pour abriter le maxi-procès et juger les pires parrains de Cosa Nostra. Eh bien cette fois, c'est un homme seul qui va devoir rendre compte de ses actes. Le parquet de la capitale sicilienne l'accuse d'avoir été, je cite, « de façon continue, notamment entre 1978 et 1992, le répondant politique de Cosa Nostra ». Rien que ça. Les 120 000 pages de pièces versées au dossier sont une plongée inquiétante dans les dédales de la Première République italienne et de ses mystères les plus épais. De l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, jusqu'aux banqueroutes de Michele Sindona et Roberto Calvi, grands argentiers de la mafia et du Vatican, et membres de la loge maçonnique P2, tous deux assassinés dans des circonstances opaques. Le rôle di Divo Giulio est évoqué de longue date dans tous ces dossiers à travers des liens établis, comme avec Licio Gelli, à la tête de la loge P2, ou supposée. Mais Andreotti a toujours réussi par 27 fois à éviter une levée de son immunité parlementaire. Mais c'est une rupture, répétons-le, car les liens entre la classe politique, la mafia et les autres pouvoirs occultes constituent jusque-là un sujet verrouillé, impossible à affronter, comme l'explique Tommaso Buscetta en salle d'audience en 1996.
Si j'avais parlé de la mafia et de la politique, j'aurais dû mentionner des personnes qui ont dominé la politique italienne. Vous voyez, si aujourd'hui, en 1996, ces choses semblent incroyables, je vous laisse imaginer si je les avais dites en 1984.
Mais ces personnages que vous auriez dû citer en 1984, qui étaient-ils? Qui était au sommet de l'État?
Écoutez, je peux vous donner deux noms. L'un était l'actuel sénateur à vie, Giulio Andreotti, et l'autre, Salvo Lima.
Alors expliquez-moi, dans votre esprit, si en 1984 vous aviez dit ce que vous savez sur ces personnes, qu'est-ce qui se serait passé?
On m'aurait pris pour un fou, et le juge Falcone aurait été transféré.
Buscetta est loin d'être le seul collaborateur de justice à accuser Giulio Andreotti de lien direct avec la mafia. Parmi les 400 témoins qui défilent à la barre, 24 parlent des coulisses, de l'intérieur de l'organisation. L'un des plus célèbres est sans doute Baldassare Di Maggio. 2 ans avant le début du procès, il a permis l'arrestation de Totorina, il capo dei capi, le chef de tous les chefs. Imaggio affirme avoir été directement témoin, le 20 septembre 1987, d'une rencontre entre son patron, Totorina, et Giulio Andreotti, et de l'échange d'un baiser rituel mafieux. La véracité de cette affirmation n'a jamais été prouvée, et Andreotti réfute très pragmatiquement. Embrasser Rina, enfin soyons sérieux, il a horreur du contact physique. Il ne se souvient même pas avoir embrassé sa propre mère. Comme stratégie de défense, l'imperturbable Divo mise sur la théorie du complot politique qui le frappe depuis l'intérieur ou depuis l'étranger. Les accusations qui tombent sur lui de toutes parts, il les reçoit avec son humour et son sens de la formule légendaire. Dans ce pays, on me met tout sur le dos, déclare-t-il. Sauf les guerres puniques, parce que j'étais trop petit. Imperturbable. Pendant toutes les années que dure le procès des siècles, il ne cesse de clamer son innocence avec vigueur. Comme ici, lors d'une interview télévisée en 1997.
Reconnaissez-vous des erreurs ou des fautes ?
Dans de nombreux domaines, j'ai pu commettre des erreurs. Mais je n'ai jamais rien eu à faire avec la mafia, ni avec Pecorelli. Et avec la mafia, si j'ai fait une chose, je le répète, c'est celle d'avoir signé des lois très courageuses, à tel point que les premières ont rencontré de grandes difficultés au Parlement.
En 1999, après 3 ans et demi de procès et 162 audiences, Giulio Andreotti, désormais âgé de 80 ans, remporte sa première bataille judiciaire. Il est acquitté du meurtre du journaliste Mino Pecorelli. Mais en 2002, coup de théâtre, il est condamné en appel à 24 ans de prison pour cette même affaire. Mais le verdict est contredit un an plus tard par la Cour de cassation. En mai 2003, la Cour d'assises d'appel de Palerme le blanchit à son tour de l'accusation de complicité avec la mafia. Mais les 1520 pages d'attendus sont cruelles, évoquant notamment le dialogue noué avec les chefs de Cosa Nostra, décrit par les juges comme une authentique, stable et amicale disponibilité envers les mafieux jusqu'au printemps 1980. Avant cette date, la prescription s'applique. Pour les faits postérieurs, Andreotti est acquitté pour manque de preuves. Mais le Divo Giulio ne dit pas adieu à la politique. Une fois la démocratie chrétienne balayée par l'opération Main Propre, il fonde en 2001 un nouveau parti, Démocratie Européenne. Mais il n'obtient que 2,4% des suffrages aux législatives de la même année. En 2008, Andreotti accède à la postérité grâce au réalisateur Paolo Sorrentino et son film Il Divo. Incarné à l'écran par l'acteur Tony Servillo, de Giulio Andreotti de fiction se lance alors dans un inoubliable monologue tout aussi fictionnel où il s'adresse à son épouse, Livia, et qui résume toutes les ambiguïtés de l'homme d'État.
Tes yeux pleins sans ombre, sans tache et enchantés ne savaient pas, ils ne savent pas, ils ne sauront pas, ils n'ont pas idée. Ils n'ont pas idée des méfaits que le pouvoir se doit de commettre pour garantir le bien-être et le développement de notre pays. J'ai représenté le pouvoir pendant trop longtemps. La monstrueuse, l'inavouable contradiction, perpétuer le mal pour garantir le bien. La funeste contradiction qui fait de moi un homme cynique et indéchiffrable, même pour toi. Tes yeux pleins, sans ombre, sans tache et enchantés, ignorent tout de la responsabilité. La responsabilité directe ou indirecte pour tous les attentats survenus en Italie entre 1969 et 1984. Et qui ont provoqué précisément 236 morts et 817 blessés. Des massacres pour tenter de déstabiliser le pays, provoquer la terreur pour isoler les partis politiques extrêmes et renforcer les partis du centre comme la démocratie chrétienne. Roberto Michele...
En 2013, Giulio Andreotti s'éteint à l'âge de 94 ans. Le Divo Giulio emporte avec lui ses zones d'ombre, les doutes et les mystères de la République, écrit le journal Il Manifesto. En tout cas, et c'est aussi pourquoi il était aimé de beaucoup d'Italiens, même pour la fin, il avait gardé un bon mot. Ce que je voudrais sur mon épitaphe, date de naissance, date de décès, point final. Les mots des épitaphes sont tous les mêmes. Mais en les lisant, on se demande, mais excusez-moi, s'ils sont tous bons, où est le cimetière des méchants ? Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui l'histoire de Giulio Andreotti, dont nous allons parler avec Jean-Louis Briquet. Bonjour.
Bonjour.
Notre invité, directeur de recherche au CNRS et à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur du livre « Mafia, justice et politique en Italie, l'affaire Andreotti dans la crise de la République ». Alors d'abord, Et à la lumière de ce récit, comment expliquer la longévité politique exceptionnelle d'Andréotti, qui a traversé beaucoup de tempêtes? On est exclu pour moins que ça.
Je crois que la longévité politique, c'est d'abord celle de la démocratie chrétienne, ça a été dit, vous l'avez dit. Hein. C'est-à-dire que c'est l'Italie, c'est un pays où vous avez un parti hégémonique, dominant, depuis 45 jusqu'aux affaires main propre, aux affaires de corruption qui lamine le parti. Mais pendant toute cette période-là, le parti est hégémonique. Et à l'intérieur de ce parti, qui est organisé en courant, ça a été dit aussi. Donc les chefs de courant négocient leur place en fonction de leur poids électoral, etc. Et Andréotti réussit à construire à la fois des liens avec le monde clérical, avec l'Église, avec certains milieux économiques, et réussit à construire aussi un courant fort qui va jouer, notamment dans les années 60, un rôle important dans les négociations avec d'autres courants, ce qui fait qu'il va être constamment, ça a été dit aussi dans la première partie de l'émission, constamment membre du gouvernement. Donc sa longévité, c'est aussi sa capacité à s'insérer dans les jeux de pouvoir interne de la démocratie chrétienne.
Alors l'opacité justement, que sait-on de la présence au sein de l'appareil d'État italien de structures plus ou moins occultes à cette période? Parce que s'il y a beaucoup de fantasmes, il y a aussi des faits. Hein. Par exemple, Andréotti lui-même, en 1990, a révélé l'existence du Gladio, une organisation militaire, paramilitaire, résultat d'un accord entre la CIA et les services secrets italiens. Tout ça organisé pour contrer une éventuelle, et pourtant très peu probable, invasion de l'Europe occidentale par l'URSS. Est-ce que l'Italie souffre, dans son image et dans l'image qu'elle donne d'elle-même à l'extérieur, de cette opacité de son système politique et de ses usages politiques? Parce que on connaît d'autres républiques parlementaires, hein, où le scrutin proportionnel règne en maître, où il n'y a pas forcément cette opacité comme ça.
Ouais, certainement, l'Italie, ça a été. Alors d'ailleurs, Andréotti pourrait être intéressant parce qu'il représente un peu les deux phases de la République italienne, donc des années 50 aux années 90. La phase, on va dire, officielle, c'est quand même le moment où la démocratie chrétienne, mais où l'Italie se développe, c'est une société qui se modernise, etc. Puis il représente aussi la phase officieuse, la phase cachée, et souvent, c'est vrai qu'on l'associe à ces phénomènes-là. Et on l'associe pas complètement à tort, dans le sens où maintenant, c'est une réalité avérée que dans un pays comme l'Italie, se sont mis en place des structures plus ou moins officieuses, d'ailleurs pour beaucoup plus officieuses que moins officieuses, voilà, des structures qui avaient pour but d'essayer alors de lutter contre la subversion en général, la subversion communiste, et puis probablement aussi de mettre en place des réseaux en mesure, en cas d'arrivée au pouvoir des communistes, de résister à cette arrivée au pouvoir. C'est bien pour ça d'ailleurs que Berlinguer, dans les années 70, notamment avec les événements au Chili, s'inquiète énormément de la possibilité d'une guerre civile en Italie, en tout cas, oui, d'une guerre civile, hein. Si les communistes arrivent au pouvoir, et vous l'avez rappelé, la possibilité que les communistes arrivent au pouvoir par la voie des urnes, elle est quand même assez importante en Italie dans les années 70.
Par la voie des urnes, oui, bien sûr.
Voilà, et donc ça explique aussi qu'une partie de la droite, soutenue probablement par les services secrets américains, etc., mette en place des systèmes de réaction à ce type, à ce qu'ils estiment être un danger. D'ailleurs, maintenant c'est avéré, puisque Andréotti lui-même l'a reconnu, vous l'avez dit, Cossiga, qui a été président de la République, un personnage important de la démocratie chrétienne qui a joué un rôle important dans ces mystères, on va dire, cette opacité du pouvoir, l'a reconnu aussi. Et d'ailleurs, tout en le défendant, hein, Cossiga a dit, de toute façon, c'était comme ça qu'il fallait défendre la démocratie. Alors après, c'est vrai que ces formes officieuses souterraines du pouvoir, elles sont exercées sans contrôle politique, c'est ce qui a été beaucoup reproché. Mmh. Et puis, il est clair qu'il y a eu alors en Italie, il y a un mot souvent utilisé, les services secrets déviés, des déviations, c'est-à-dire des usages aussi de la violence, de la manipulation, et des manœuvres, du meurtre aussi, à des fins d'exercice du pouvoir.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Jean-Louis Briquet, puisque vous êtes penché sur le dossier, qu'en est-il des rapports entre le pouvoir politique et la mafia? Tout ça est nourri de fantasmes, mais aussi de réalité. Quelle est la part de fantasmes? Quelle est la part de réalité?
Alors, je pense qu'on sait maintenant qu'il y a une grande part de réalité. Alors, ça dépend de quelle manière. Alors, si on prend le procès Andréotti, puisque le procès Andréotti est un moment effectivement important où c'est un procès long, avec beaucoup de témoins, d'informations, etc. C'est le moment où, effectivement, la question des rapports politico-mafieux va se poser, même si ça s'était posé auparavant. Donc, la question de la culpabilité d'Andréotti, c'est-à-dire sa responsabilité personnelle dans ses liens, elle pose problème. On pourra y revenir après. Mais en tout cas, ce que démontrent ces procès, c'est que, dans certaines réalités sociales, comme notamment la Sicile, mais aussi dans d'autres endroits, des systèmes d'échange, de collusion entre des milieux criminels, des milieux affairistes et criminels qui sont souvent associés, et des milieux politiques ont été une donnée avérée de la vie politique. Alors, la vie politique ne pouvait pas se limiter à ça. C'est-à-dire qu'il y a certains interprètes qui vont avoir une vision un peu excessive en essayant de dire que la vie italienne était une vie contrôlée par les criminels, la vie politique italienne ou sicilienne, ce qui est probablement faux. Il n'empêche que ces collusions occultes entre des pouvoirs criminels, des pouvoirs financiers illicites et des pouvoirs politiques ont joué un rôle déterminant dans la politique au moins de la Sicile et puis plus globalement dans la politique italienne. Les procès l'ont montré assez clairement. Les commissions d'enquête parlementaires aussi, il n'y a pas eu que les procès d'ailleurs.
Et on a longtemps pensé, à tort ou à raison, que parfois l'État était faible, l'État italien faible, parce que trop lié à la mafia. Enfin, c'est pas si faible que ça, parce que l'État a fini par avoir le dernier mot quand même en Sicile, avec les grands procès.
Mais oui, l'État, c'est pas une réalité monolithique. Hein. L'État italien, c'est effectivement d'un côté des groupes qui pouvaient avoir des intérêts à ces relations occultes ou à ces... Et puis des groupes qui, comme la magistrature, c'est quand même une partie de l'État, la magistrature, qui a joué un rôle très très important dans la répression du phénomène mafieux, dans la mise en visibilité publique aussi de l'existence de ces collusions et dans la dénonciation. Il n'y a pas que la magistrature, il y a aussi des groupes politiques, la société civile, etc. Mais ça a joué un rôle très très important, notamment dans les années 80 et puis dans les années 90. Et effectivement, on peut dire que il y a des partis au sein de l'État italien qui sont des partis saines, pour le dire comme ça, enfin ouais, et qui ont joué un rôle important dans la défense de la démocratie contre les formes de collusion politico-criminelle. Après, est-ce qu'ils ont complètement réussi ? Ça, c'est une autre question. À l'heure actuelle, je pense qu'on peut pas réellement y répondre.
Oui. Alors, il y a des parties saines, comme vous dites, qui sont aussi parfois très courageuses. Falcone, Borsellino, Della Chiesa. Oui. C'est quand même des magistrats qui vont sur le terrain, au péril de leur vie. Et souvent, quand on leur dit, bon, c'est un peu dangereux, on vous rapatrie à Rome, ils disent non, on reste en Sicile. Il y a ça aussi, il y a quand même cette dimension héroïque.
Alors c'est vrai, il y a une dimension héroïque absolument indéniable, et puis il y a aussi tout un travail, notamment de Falcone, qui consiste à rendre en gros les procès de mafia possibles, et la répression de la mafia possible, parce que les grandes difficultés qu'ont les juges dans les années 70, c'est que la criminalité mafieuse, elle est très très difficile à réprimer, parce qu'il n'y a pas de preuves, parce que souvent c'est des sous-fifs qu'on condamne et pas les chefs de la mafia, parce que les gens parlent pas, etc.
Et donc, et puis parce que ça repousse comme la mauvaise herbe.
Voilà, et puis c'est difficile à démontrer juridiquement, enfin en tout cas c'est en procès, la responsabilité de quelqu'un dans du racket, etc. Et ce que va faire Falcone et beaucoup d'autres juges, c'est qu'ils vont réussir à imposer comme preuve judiciaire, pour le dire très vite, les déclarations des repentis. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, les déclarations des repentis, non seulement se peuvent valoir comme preuve judiciaire, mais autre chose aussi, il existe des règles dans la mafia, des modes de fonctionnement que les repentis vont mettre en évidence. Par exemple, le fait que des crimes importants ne peuvent pas se faire sans l'aval des grands chefs mafieux, ce qui va permettre à ces juges de condamner des chefs mafieux, non pas pour un meurtre qu'ils n'ont jamais fait, ils délèguent ça au sous-fifre, mais pour leur responsabilité en tant que mandataire, pourrait-on dire, de ces crimes. Et donc, ça va être un travail judiciaire absolument considérable, qui va rendre d'ailleurs le procès Andreotti possible, et qui va permettre de mettre en place des dispositifs efficaces de lutte contre la mafia.
Comment peut-on lire l'arrivée et le maintien au pouvoir assez longtemps, finalement, par cession des Berlusconi ? Est-ce que c'est une réponse à une demande des Italiens, une demande d'ordre, après toutes ces années de plomb, ces années chaotiques ? Ou est-ce qu'il faut y voir autre chose ?
Alors, ce qu'il y a, c'est que Berlusconi, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un autre monde. Quand on parle du monde d'Andreotti, en tout cas, le monde d'Andreotti, c'est le monde du bipolarisme, avec les communistes et puis les anticommunistes.
De la guerre froide.
De la guerre froide. Puis en même temps, en Italie, quand même, le parti communiste et la démocratie chrétienne, même si c'est des ennemis, on va dire, en tout cas des concurrents, c'est quand même les deux partis antifascistes. Hein, c'est ce qu'on appelle l'arc constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de solidarité dans l'identification à la République fondée sur l'antifascisme. Ce monde-là, il disparaît quand Berlusconi arrive au pouvoir au milieu des années 90, c'est le monde des partis de masse, c'est le monde de l'État interventionniste, etc. Ce monde-là disparaît. Moi, à mon avis, Berlusconi est plutôt le produit de l'effondrement de ce monde politique, beaucoup plus marqué en Italie d'ailleurs qu'en France. C'est-à-dire qu'en Italie, en l'espace de 2 ans, entre 92 et 94, vous avez un système politique qui s'effondre complètement.
Un dégagisme.
Voilà, c'est du dégagisme par rapport à la France à la puissance 10, hein, et en tout cas, beaucoup plus concentré dans le temps. Et effectivement, finalement, c'est un nouveau monde qui va se construire avec Berlusconi. Même si Berlusconi surfe, au moins au début, sur l'anticommunisme, sur la défense des valeurs chrétiennes, et donc peut reprendre aussi, tente de reprendre, un héritage de la démocratie chrétienne dont Andreotti pouvait être un représentant.
Peut-être qu'on peut conseiller à nos auditeurs de regarder le film Il Divo, bien sûr,
ah oui,
et puis aussi la série Esterno Notte.
Oui, qui est aussi sur l'assassinat de Moreau, qui est très très... Qui est magnifique, voilà.
Qui est formidable, parce qu'on rentre vraiment dans la psychologie de ces gens-là, des gens qui sont au pouvoir, et notamment de Cossiga, qui apparaît en tout cas dans la série comme un personnage très déséquilibré.
Oui, oui.
Psychologiquement fragile, alors qu'il va devenir président quand même.
Il va être président de la République, oui, mais c'est une série qui rend bien compte de toutes ces ambiguïtés, de l'exercice du pouvoir.
Et c'est sur Canal+. Merci à la plateforme Canal+, merci infiniment. Jean-Louis Briquet, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Giulio Andreotti, la boîte noire de l'Italie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.